de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. L'économie indonésienne a le potentiel de croître parallèlement à la récession au Japon et au Royaume-Uni. Indonésie et Timor-Oriental établissent une coopération dans le développement de coopératives et de MPME. Le ministre du Tourisme et de l'économie créative invite les entrepreneurs australiens à créer 5 forfaits touristiques des PSP. Indonésie et Singapour ouvrent des opportunités de collaboration pour réduire les émissions de l'aviation. Exercice naval de 57 pays augmente les visites. Autorité des services financiers OJK a déclaré que le secteur des services financiers en Indonésie connaît une croissance positive. BP2MI a déclaré que le secteur du placement de PMI en Corée du Sud était en augmentation. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. Le ministre des entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a déclaré que la croissance économique de l'Indonésie a la possibilité de se développer au milieu de la récession qui sévit au Japon et au Royaume-Uni. Lors de la cérémonie d'inauguration de la construction du bâtiment Bank Negara Indonesia SA-TBK, BNI, au Central Business District CBD Pantai Indah Kapuk de Tangerang Banten mardi, Erick Thohir a déclaré alors que de nombreux pays sont en récession, cela devient une opportunité de croissance pour l'Indonésie. Selon Erick, l'Indonésie doit créer un marché plus convivial pour les investisseurs afin de développer l'économie. Ces efforts s'accompagnent d'une consolidation entre le gouvernement central et les gouvernements régionaux pour simplifier les licences d'investissement afin d'ouvrir autant de portes que possible à l'investissement, afin que le secteur privé et les entreprises publiques puissent encourager la croissance du secteur économique. En dehors de cela, l'armée nationale indonésienne TNI et la police de la République d'Indonésie, Polri, devraient maintenir la sécurité afin d'assurer les investissements fluides dans le pays. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises a établi une coopération bilatérale avec le Timor oriental pour renforcer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ainsi que les avantages aux économies de deux pays. Cette collaboration a été confirmée par la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays qu'il s'est tenu à Jakarta mardi 20 février. Cité par Antara, le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Teten Masduki, a expliqué que la portée de cette collaboration comprenait un engagement à développer le renforcement des capacités, les partenariats entre coopératives, des études de faisabilité liées au développement du potentiel commercial des coopératives et des PME, la formation et des visites d'échange ainsi que le renforcement des programmes de PME et de coopération grâce à la coopération régionale. Parallèlement, le secrétaire d'État aux coopératives du Timor oriental, Arsenio Pereira da Silva, espère que grâce à cette collaboration, ils pourront apprendre ensemble à développer les MPME et les coopératives pour les rendre plus fortes. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, chef de l'Agence du tourisme et de l'Économie créative de la République d'Indonésie, Sandiaga Uno, a invité les acteurs de l'industrie du voyage en Australie, en particulier le Flight Centre Travel Group, à créer des voyages organisés vers diverses destinations en Indonésie, en particulier les 5 destinations touristiques super prioritaires des PSP. Dans un communiqué de presse mardi 20 février, Sandiaga Uno a déclaré que le forfait pourrait être résumé dans le forfait Bali Add-on Destination, à savoir un forfait qui propose des circuits à Bali comme destination préférée des touristes étrangers en provenance d'Australie, combiné avec d'autres destinations telles que Lombok, Labuan Bajo, également Yogyakarta. On espère que le potentiel de cette collaboration augmentera l'intérêt des touristes étrangers en provenance d'Australie. Si vous regardez les données tout au long de 2023, le nombre de visites touristiques australiennes en Indonésie atteindra plus de 1,4 million de visites. Il a ajouté que la visite des touristes australiens est particulièrement conforme à l'objectif d'amélioration de la qualité et de la durabilité de notre secteur touristique et créatif, à commencer par la répartition des touristes étrangers, l'augmentation de la durée du séjour ainsi que les dépenses des touristes étrangers. On espère qu'il y aura une coopération plus étroite entre l'Indonésie et l'Australie. Le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, a rencontré mardi le ministre des Transports de Singapour, Chiong Tan, à Singapour, avec pour l'objectif de discuter de la possibilité d'ouvrir des opportunités de coopération pour surmonter les émissions de l'aviation et réduire les émissions de carbone des opérations aéroportuaires. Citant depub.go.id, Budi Sumadi a expliqué que la réunion avait discuté de la possibilité de travailler ensemble à la construction d'une raffinerie de remplacement des carburants d'aviation plus respectueuse de l'environnement en Indonésie. De cette manière, l'Indonésie participe à la réduction des émissions de carbone de l'aviation. Singapour a décidé d'imposer des taxes sur les avions à partir de 2026 pour tous les passagers en provenance de Singapour. Ces frais serviront à soutenir l'utilisation des carburants d'avions respectueux de l'environnement. Au cours de la réunion, les deux ministres ont également discuté de la possibilité d'ouvrir des liaisons aériennes depuis Singapour vers diverses destinations touristiques indonésiennes. Outre d'un passage à Jakarta qui présente également un grand potentiel de développement. Le gouverneur par intérim de Bali, Sangmad Mahendra Jaya, soutient la tenue du 5e exercice naval multilatéral MNE Komodo à Bali. Les activités de formation navale de 57 pays sont considérées comme susceptibles d'augmenter les visites touristiques. Il a déclaré cela en accueillant le commandant du Collège de commandement et d'état-major naval, c'est Squal, le contre-amiral de l'armée nationale indonésienne, Yos Suryono Hadi, et son entourage d'un passage Bali 20 février. Sangmad a déclaré qu'à partir du 14 février 2024 à Bali, imposer aux touristes étrangers une taxe de 150 000 roupies pour préserver la nature et la culture de Bali. Selon Sangmad, cet exercice non militaire est une forme de diplomatie de la marine indonésienne en amenant la puissance des marines étrangères dans les eaux indonésiennes, ce qui peut aider le tourisme à Bali. Il a ajouté que le 5e exercice naval multilatéral Komodo sera également combiné avec la 6e symposium international sur la sécurité maritime, IMSS, en février 2025. Le président du Conseil des commissaires de l'Autorité des services financiers, OJK, Mahendra Siregar, a déclaré que le secteur de services financiers a connu une croissance positive, soutenue par une structure de capital solide. Mahendra Siregar, cité par Antara, a déclaré mardi 20 février que du point de vue de l'intermédiation crédit et du financement, les créances ont augmenté à deux chiffres avec un risque de crédit relativement contrôlé. Le crédit bancaire augmentera de 10,38% sur un an en glissement annuel tout au long de 2023. Pendant ce temps, la levée de fonds sur le marché des capitaux a réussi à dépasser l'objectif de 200 000 milliards de roupies. Le nombre de nouveaux émetteurs établissant un niveau record par rapport aux pays de la région. L'intérêt pour l'investissement sur le marché des capitaux continue de croître avec le nombre croissant d'investisseurs, quintuplé au cours des 4 dernières années. L'Agence indonésienne de protection des travailleurs migrants BP2MI a déclaré qu'il existait un secteur supplémentaire pour le placement des travailleurs migrants indonésiens en Corée du Sud. Cet ajout a été réalisé dans le cadre du système d'examen du système de permis de travail test des compétences en coréen EPS Topic. C'est ce qu'a déclaré le chef de BP2MI Benny Ramdhani lors d'une conférence de presse à Jakarta mardi 20 février. Benny a expliqué que l'ajout de nouveaux secteurs dans l'inscription à l'examen EPS Topic 2024, qui ne concernait à l'origine que la fabrication et la pêche, a été étendu à la construction navale au service 1 pour les services tels que le traitement des déchets et au service 2 qui comprend le travail dans les hôtels et les restaurants. Selon Benny, son parti se bat actuellement pour l'ajout d'autres secteurs pour le placement de travailleurs indonésiens dans le cadre du programme de coopération intergouvernementale G2G, notamment dans les secteurs agricoles et logistiques. Bon changement de temps, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh,
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Droits des éditeurs pour un journaliste de qualité » avec Maudrey. Sur ce tard, le président Joko Widodo a signé le règlement présidentiel numéro 32 de 2024 concernant les droits des éditeurs. Le président l'a annoncé lors de la commémoration de la Journée nationale de la presse à Jakarta le mardi 20 février 2024. Les droits des éditeurs sont des règles qui exigent que la plateforme numérique apporte une valeur économique au contenu d'actualité des médias locaux et nationaux. Avec cette réglementation, les médias recevront une sorte de redevance sur les contenus publiés et largement partagés sur les plateformes numériques telles que les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les agrégateurs d'informations. Les plateformes numériques telles que Google, Facebook, X et autres sont tenues de rémunérer les médias locaux dont le contenu est lié dans leurs résultats de recherche ou leurs fiches d'actualité. Dans son explication, le président Joko Widodo a déclaré qu'avec le règlement présidentiel sur les droits des éditeurs, le gouvernement ne réglemente pas le contenu de la presse. Selon lui, le gouvernement réglemente les relations commerciales entre les sociétés de presse et les plateformes numériques dans le but d'améliorer la qualité du journalisme. Le président a souligné que le gouvernement souhaite garantir la durabilité de l'industrie nationale des médias, ainsi qu'une coopération plus équitable entre les entreprises de presse et les plateformes numériques. Du côté des médias, ce règlement présidentiel profitera probablement économiquement aux entreprises de presse. Il reste toutefois à voir si cela profitera également à la communauté au sens large, notamment aux plateformes numériques et à leurs utilisateurs. L'une des plus grandes plateformes sur Internet, Google, par exemple, a répondu à cet règlement présidentiel dès qu'il était encore à l'état de projet le 25 juillet de l'année dernière. Cité par Tempo.co, Google a déclaré qu'il n'afficherait plus de contenu d'actualité sur sa plateforme si ce règlement présidentiel était mis en œuvre. Google a également fait quelque chose de similaire en Australie et au Canada. Si Google fait réellement cela, alors la plateforme du moteur de recherche Google n'affichera pas le contenu provenant des éditeurs des médias indonésiens. Outre la perte de trafic de lecteurs, les éditeurs des médias risquent également de perdre des milliards de roupies de revenus en raison de la réduction de la publicité. En outre, sans les moteurs de recherche numérique, les gens auraient également du mal à obtenir des informations équilibrées sur certaines questions en raison de l'accès limité aux différents médias. Espérons que cela n'arrive pas à l'objectif du règlement présidentiel sur les droits des auditeurs et une coopération équitable entre les plateformes numériques et les éditeurs de médias. Si ce mécanisme de coopération peut être convenu, les droits des éditeurs seront garantis et le grand public pourra bénéficier d'une information variée, de qualité et équilibrée, notamment avec la présence de plateformes numériques qui contribuent à sa diffusion. Bon, chers auditeurs, c'est tout. Le commentaire.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 février 1958, le référendum sur la création de la République arabe unie. Le 21 février 1958, les peuples égyptiens et syriens approuvèrent lors d'un référendum de la création d'un État commun qui fut nommé République arabe unie. Gamal Abdel Nasser a été élu président du nouvel État commun. Quelques temps plus tard, le Yémen également participé à l'APR. L'objectif de la création de cet État arabe commun était spécifiquement de promouvoir l'unité des nations arabes contre le régime sioniste. Cependant, cet État combiné n'a duré que 3 ans et a été dissous en 1961. Passons maintenant à l'événement du 21 février, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée pour la première fois. La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée dans le monde entier tous les 21 février 2000, bien qu'elle ait été officiellement fixée plus tard lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2008. Cette commémoration vise à préserver toutes les langues existantes sur la planète afin qu'elles ne disparaissent pas. Le 21 février a été choisi pour commémorer la manifestation populaire à Dakar à cette date en 1952 qui a fait des victimes. La manifestation s'est battue pour l'utilisation du bengali ou du bangla comme langue nationale au Bangladesh lorsque la région était contrôlée par le Pakistan. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement sur la commémoration de la Journée nationale de sensibilisation aux déchets. En 2006, le ministère de l'Environnement a déclaré pour la première fois le 21 février Journée nationale de sensibilisation aux déchets. Cette journée rappelle le désastre du glissement de terrain à Lovigaja, Chimahi, Zavaves, le 21 février 2005. Cet événement malheureux s'est produit en raison de fortes précipitations et d'une explosion de méthane dans un tas d'ordures. Dans cette catastrophe catastrophique, 157 personnes sont mortes. Deux villages, à savoir Chirimus et Pojok, ont disparu de la carte en raison d'une avalanche de déchets provenant du site de stockage final de Lovigaja. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Aku masih ingat, beranikan diri menyapa, percakapan singkat, bermodalkan topik cuaca, dan sebuah hari yang biasa saja, berubah menjadi istimewa. Mungkin kau pun ingat, pernah ku tunggu semalaman, ku pikir terlambat, tapi kau malah ketiduran, dan itu tak runtuhkan niatku. Ujian menuju hatimu. Kita mudah menaklukkan hatimu. Biar waktu beri jawaban terindah. Upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilih. Sebuah hari yang biasa saja upaya sudah maksimal, gagal pun tak jadi soal. Yang penting kau tahu, aku tak pernah ragu memilihmu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et encore le titre. L'Indonésie prépare un forum mondial de l'eau plus grand que le G20. Le ministre coordinateur des affaires maritimes et l'investissement, qui est également président du Comité national du 10e Forum mondial de l'eau, WWF, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que le WWF sera un forum plus grand que le G20 et qu'il devra être fait de manière très détaillée. C'est ce qu'a transmis Luhut Panjaitan lors de la réunion préparatoire de coordination vendredi, le 16 février 2024, à Bali. La réunion visait à consolider le comité national et l'équipe de soutien pour faire de l'événement un succès, tant en termes d'organisation que de contenu. Citant le communiqué de presse du ministère de l'Organisation des Affaires maritimes et de la pêche, le Forum mondial de l'eau, qui se tiendra du 18 au 24 mai 2024, devrait être l'événement international le plus grand et le plus stratégique, avec environ 50 000 participants multipartites, entre autres les chefs d'État, la Chambre des représentants du peuple, DPR, les organisations internationales, les ministres, les gouvernements régionaux, les PDG, les experts et les universitaires. Le ministre coordinateur Luhut a souligné que les impacts du changement climatique deviennent de plus en plus réels et que la disponibilité d'eau potable pour les humains et la nature diminue. Ces éléments constituent des paramètres importants pour le bien-être humain. C'est pourquoi le thème du 10e WWF, l'eau pour une prospérité partagée, est tout à fait approprié. Il a ajouté qu'il est important de comprendre que le problème de l'eau est un problème mondial qui nécessite une solution commune pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. Le ministre coordonnateur Luhut a ajouté que ce problème doit être résolu conformément aux orientations du président Joko Widodo, y compris la conservation de l'eau, la disponibilité de l'eau potable et de l'assainissement, la sécurité alimentaire et énergétique, ainsi que l'atténuation des catastrophes naturelles telles que les inondations et la sécheresse. Il a également déclaré que l'Indonésie doit obtenir des avantages économiques grâce à l'investissement et à la promotion du tourisme. Outre que la préparation des aspects substantiels et techniques de l'événement principal, le ministre coordonnateur Luhut a également souligné que le ministère du Tourisme et de l'Économie créative, en collaboration avec le gouvernement provincial de Bali, devait commencer à promouvoir des forfaits touristiques et des événements culturels pour attirer les visiteurs. Il devrait également encourager les micro et petites entreprises à participer à l'événement pour augmenter le chiffre d'affaires économique et augmenter les revenus des personnes. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, qui est présent à la réunion préparatoire, a également déclaré que le 10e WWF. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics et du Logement public, Basuki Hadi Mulyono, qui est présent à la réunion préparatoire, a également déclaré que le 10e WWF produirait une déclaration ministérielle comme résultat le plus élevé. La déclaration couvre des questions importantes et stratégiques, offrant des avantages pour une utilisation durable de l'eau en Indonésie et dans le monde. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, êtes-vous déjà allé sur l'île de Morotai? Cette île cachée à la pointe nord des Moluques est riche de vues extraordinaires. En dehors de cela, l'île de Morotai a également une histoire assez intéressante dans le passé. Les habitants locaux qui se souviennent encore de la Seconde Guerre mondiale racontent souvent des histoires sur l'île de Morotai à cette époque où l'île était autrefois le siège de diverses activités militaires, d'attaques soudaines, d'attaques de milliers de soldats et même des navires de guerre accostés autrefois là. L'une des histoires liées à la communauté Morotai locale est l'incident du 15 septembre 1944, précisément lorsque les troupes alliées des États-Unis et de l'Australie, dirigées par le général Douglas MacArthur, débarquèrent sur la pointe sud-ouest de l'île Morotai pour prendre le contrôle de l'île du contrôle des troupes japonaises. Après avoir remporté la bataille, le général MacArthur a décidé de construire une base militaire sur l'île de Morotai avec plus de 50 000 militaires. Le général MacArthur aurait réussi à construire plusieurs aérodromes, un hôpital et une base navale sur l'île de Morotai en un temps assez court. Chers auditeurs, Morotai compte 53 000 habitants et constitue à nouveau un paradis tropical tranquille. Actuellement, le gouvernement indonésien a le projet de développer l'île de Morotai pour en faire un centre de pêche, de tourisme et de services. Située au nord de la plus grande île Halmahera dans la province des Moluques du Nord, l'île de Morotai possède une variété de belles plages et des spots de plongée intéressants. La plus grande ville de cette île est Daruba, située au nord. Depuis Daruba, vous pourrez explorer plusieurs plages vraiment en sang terrestre autour de Morotai, comme l'île Dodola au sud-ouest, la place Gorango au nord-est, l'île Kokoya au nord-ouest, l'île de Tabailenge à l'est et la plage de Rorasa qui se trouve également dans la partie orientale de l'île de Morotai. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidélité. À demain.
sekedar ini.
C'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi, Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Bonne écoute. Chers amis, ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan. Mi-chemin. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien, et Sortauli, une amie de vlog de Chris, lors d'un voyage du lac Singkarak au lac Meninjau. Sortauli a informé Chris qu'ils étaient à mi-chemin du lac Singkarak au lac Meninjau. Bon, écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati kelok 44.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions, des phrases et des mots liés au sujet d'aujourd'hui intitulé Separuh Perjalanan. Separuh Perjalanan, mi-chemin. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Kita sudah separuh perjalanan. Kita sudah separuh perjalanan. Nous sommes déjà à mi-chemin. Kita, nous. Sudah, sudah, déjà. Separuh, separuh, mi. Perjalanan, perjalanan, chemin. Sampai mana, jusqu'à où? Apakah, apakah, est-ce que? « Chers amis, dans une conversation, vous avez entendu l'expression « Kita sudah separuh jalan ».« Kita sudah separuh jalan ». En français, nous sommes déjà à mi-chemin. Dans ce discours, il y a le mot « separuh ». Separuh, mi. Le mot separuh, separuh, mi, signifie moitié. Dans ce discours, l'expression separuh perjalanan, mi-chemin, est utilisée pour exprimer la distance parcourue à la moitié du trajet. Chers amis, allez écouter un exemple d'utilisation de mots separuh, separuh, mi, dans une autre phrase. Saya sudah makan separuh nasi di piring. Saya sudah makan separuh nasi di piring. J'ai mangé la moitié du riz dans l'assiette. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris menghabiskan separuh porsi ikan bilih goreng. Chris a terminé la moitié de la portion de poisson bilih frit. Chers amis, Kellogg 44 ou Kellogg 44 est une route sinueuse entre le lac Sinkarak et le lac Manjau. Chaque virage a un angle très aigu, entre 45 et 65 degrés. Le virage 44 était autrefois le parcours de la course cycliste internationale Tour de Sinkarak. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kita sudah sampai mana? Apakah masih jauh?
Kita sudah separuh perjalanan. Sebentar lagi kita akan melewati Kellogg 44.
Bon, chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, kita jalani saja. Cukup sudah berkata-kata, cukup jangan banyak bicara. Kalau cinta bilang saja, tak perlu lama-lama. Satu, dua, tiga, oh, kita jalani saja. Cukup jangan banyak bicara. Cukup jangan bangun.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Chers auditeurs et auditeurs, bonsoir. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel avec moi, Audrey. Je vais vous présenter une chanson de Java occidentale intitulée Nenglis. Sœur Jamie, la chanson Nenglis a été popularisée par Alfian. Nenglis signifie « belle fille ». Cette chanson sundanaise raconte l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une belle femme. On dit que cette femme de Bandung a les joues jaunes et le nez pointu. L'homme espère aussi faire connaissance, voir se fiancer avec la belle femme le mois prochain. Bon, chers auditeurs, voici Alfian va chanter une chanson de Java occidentale intitulée Nenglis. Bonne écoute! Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.